Bloc Invest. Parlons investissement tout simplement.
Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloc Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment lever des fonds pour acheter de l'immobilier. Quelles sont les nouvelles règles? Je te parle de tout ça. Mais avant, si tu ne me connais pas, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, je ne suis pas un formateur, je n'ai rien à te vendre, je suis seulement ici pour te partager mes connaissances et parler de l'actualité. En revanche, si tu souhaites me poser tes questions ou participer à l'émission, envoie tout simplement tes messages sur mon Insta à locinvest, donc ça s'écrit loc-invest-locinvest. Locinvest. J'y répondrai avec un très grand plaisir et je pourrai les traiter durant les prochains podcasts. Donc, aujourd'hui, l'objectif n'est pas de te faire un cours, mais tout simplement de te faire comprendre un peu comment fonctionne la banque pour l'investissement immobilier, te donner quelques astuces, pour certains ce sera juste un petit rappel, mais qui pourront quand même te débloquer des situations pour tes prochains financements. Quelles sont les nouvelles règles et comment en contourner certaines? Car oui, c'est toujours possible. Si tu es comme moi et que tu commences avec très peu d'argent au début, c'est très difficile de se faire financer. Et si la banque ne te prête plus, c'est fini pour toi, tu ne peux plus investir. Donc le financement, c'est vraiment la pierre angulaire de l'investisseur. Donc nous allons parler en premier du fonctionnement des banques. T'inquiète pas, c'est rien d'indigeste, c'est seulement les règles actuelles. Nous allons voir ensuite qui va pouvoir se faire financer aujourd'hui, quels sont les documents que j'utilise personnellement, quelles sont les choses à négocier ou pas en banque, comment se comporter au rendez-vous et avec ses comptes bancaires, et pour terminer, je te parlerai de comment est-ce que je me suis fait financer en étant au chômage. Et oui, je fais partie de la petite minorité qui a réussi à se faire financer des biens tout en étant au chômage. Donc l'avantage dans ce que tu vas entendre dans ce podcast, c'est que contrairement au formateur immobilier, je n'ai pas construit mon empire grâce à la vente de formation. Tout a été construit sur des loyers que j'ai encaissés et une solde légèrement supérieure au SMIC. Mais si tu veux tout savoir, tu n'as qu'à écouter le premier podcast. Donc dis-toi que si tu gagnes un peu plus que le SMIC contrairement à moi à mes débuts, c'est une chance et donc tu peux tout défoncer. Et pense bien que si tu investis dans l'immobilier et que tu fais que ça, ton job ce n'est pas l'immobilier, tu es en priorité un leveur de fonds. Mais avant de te parler du prix immobilier pour l'investissement, prenons un peu de recul et essayons de comprendre un peu comment tout cela fonctionne. Donc pour commencer, tu as la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc dans tous les pays, ils ont leur banque centrale. Aux États-Unis, tu as la Fed. Au Japon, tu as la Bank of Japan. En Angleterre, vu qu'ils ne sont plus dans l'euro, la Bank of England, etc. Donc tu l'auras compris, chaque pays a sa banque centrale. La Banque Centrale Européenne prête, elle, de l'argent aux banques. Donc en gros, c'est la banque des banques. Et la présidente de la BCE, depuis le 1er novembre 2019, c'est la française Christine Lagarde. Donc si tu entends son nom revenir souvent aux infos, c'est normal, c'est elle la présidente de la BCE. Donc le but de la BCE, elle, c'est de stabiliser les prix et de faire en sorte à ce qu'ils augmentent, mais pas trop. C'est aussi de réduire le chômage du coup dans les pays et d'augmenter au possible la croissance. Ça, c'est l'objectif de la BCE. C'est elle aussi qui choisit le taux directeur qui déterminera du coup le taux d'intérêt que tu paieras sur ton prêt immobilier. Donc pour schématiser, imagine que la BCE prête à ta banque de l'argent à 1%. Même si parfois ils sont même en négatif, donc les dernières années ils étaient en négatif, au moment que j'enregistre c'est à zéro et ils essayent de refaire passer ça en positif. Bref, ta banque va te faire un prêt de 2,3%. La différence donc entre les 1% que la BCE a prêté à ta banque et les 2,3% que tu as fait sur ton prêt immobilier est de 1,3%. Donc par conséquent, c'est la rémunération de la banque. Donc voilà pourquoi les banques ne te prêtent pas forcément d'argent, parce qu'ils ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent. C'est vraiment juste un appel pour récupérer des clients et faire en sorte à ce que ces clients justement prennent des assurances, prennent des comptes, des cartes bleues, et c'est ça qui va vraiment rapporter de l'argent à ta banque. Mais aujourd'hui, le but de la BCE, c'est surtout de diminuer l'inflation. Et pour cela, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente les taux. Pour qu'il y ait moins d'investissement et donc moins de consommation. C'est l'une des armes principales d'ailleurs que la BCE possède. L'inflation est due principalement à cause de l'augmentation des prix de l'énergie. Énergie que l'on retrouve grandement en Russie, donc le pétrole, si tu n'es pas au courant, on l'achetait en Russie, et la France a décidé tout simplement de ne pas l'acheter. Et en plus de ça, le gaz nous a été coupé, donc au moment où j'enregistre, on est en pleine guerre, donc entre Russie et Ukraine, et donc la Russie a coupé le gaz à la France, ce qui fait que les prix de l'énergie, par conséquent, augmentent. Il n'y a pas que ça, je schématise un peu, je le sais. Donc cet hiver, je ne sais pas comment on va faire, mais bon, comme d'habitude, l'être humain va s'adapter, moi j'ai confiance, on a une certaine capacité à le faire. Bien, maintenant que tu as compris tout ça, il faut que tu saches que le 9 juin 2022, ils ont annoncé, donc Christine Lagarde, avec son conseil, a annoncé qu'ils allaient arrêter de mettre de l'argent facile, entre guillemets, sur les marchés. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis le 1er juillet 2022. Alors, le jour de cette annonce d'arrêt de liquidité, tu remarqueras qu'il y a une légère accélération de la baisse pendant quelques jours sur le marché. En gros, si tu vas sur les marchés financiers, sur ton tracker, si tu regardes, tu vas sur TradingView et tu verras que dès qu'ils ont fait cette annonce le 9 juin 2022, tu vois qu'il y a une légère accélération de la baisse. Bref, qu'est-ce que Christine Lagarde a annoncé? Dans leur communiqué de presse, ils ont tout simplement dit que c'était la fin d'une ère pour les marchés obligataires, celle de l'argent facile et pas cher. Donc, la Banque Centrale Européenne a confirmé qu'elle cessait d'abreuver le marché de liquidités comme elle l'a fait depuis 2015, dès le 1er juillet. Ensuite, elle a annoncé qu'elle relèverait ses taux par deux fois en juillet et en septembre. Donc, l'arrêt du programme d'achat d'actifs, connu sous le nom de DAPP, donc excuse-moi pour l'accent, mais c'est Access Purchase Program, n'est pas une surprise. Il a été évoqué en février, il a ensuite gagné en légitimité au fur et à mesure que l'inflation en zone euro enchaînait des records. Elle a atteint 8,1% donc sur une année juste en mai, et les nouvelles anticipations de la BCE prévoient qu'elle tournera encore autour de 3,5% en 2023 avant de retomber à 2,1% en 2024. Alors là, ils annoncent qu'elle va diminuer, mais bon, si tu écoutes ce podcast en 2023 ou en 2024, tu me diras si on est descendu déjà en dessous des 8,1%. Ça, c'est déjà une bonne chose à savoir, parce que bien sûr, au tout début, ils t'ont annoncé « Non, vous en faites pas de l'inflation, on la contrôle, elle va diminuer », quand on était à 5% et on est passé à 8%. Il faut savoir qu'une inflation, tu ne la contrôles pas vraiment. Mais bon, bref, tu apprends plus de choses sur une personne qui t'annonce le futur que le futur en lui-même. Donc pour revenir à la mise en place de 2015 de l'APP, donc cette période, si tu veux, le but, c'était de rajouter des liquidités sur les marchés pour faire redémarrer une légère inflation qu'il n'avait pas eu depuis longtemps. Et là, l'inflation devient complètement folle à cause du prix de l'énergie, du coup, maintenant, ils essayent de l'arrêter. En bref, on a la BCE qui décide de ne plus mettre son argent sur les marchés financiers et d'augmenter les taux, et donc, par conséquent, prête moins d'argent. À tout cela, tu peux rajouter les nouvelles règles de la HSCF en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Bon, règles que tu peux contourner, mais je t'en parlerai un peu plus tard. Pour que tu sois au courant, je vais quand même te lire quelques règles de la HSCF sur le communiqué de presse qu'ils ont fait. Donc le communiqué de presse, il nous dit « Considérant que l'endettement des ménages est passé de 53,4% de revenus disponibles bruts à 100,9% entre le premier trimestre 2001 et le premier trimestre 2021, donc là tu as 20 ans d'écart, et que le crédit de l'habitat contribue significativement à cette dynamique, que le niveau d'endettement atteint conjugué à la dégradation tendancielle des conditions d'octroi observées depuis 2015, et de nature à fragiliser les ménages. En vue de prévenir un endettement excessif des agents économiques, l'article 1, qu'est-ce qu'il nous dit ? Outre leurs critères propres, les établissements de crédit et les sociétés de financement en matière de crédit immobilier, leur taux d'effort et d'emprunt de crédit immobilier n'excède pas 35%. Voilà, là, c'est le fameux 35% qui nous ont sorti, qui a été relié partout. Ensuite, en deuxième, la maturité du crédit n'excède pas 25 ans. Voilà, 35, 25 ans. Mais pour commencer, déjà les 25 ans, c'est pas vraiment 25 ans, tu peux passer à 27 officiellement sur le papier. Dans l'article, ils nous disent un différé d'amortissement d'une durée analogue à celle de ce décalage est toléré dans la limite d'une maturité maximale de 27 ans et d'une période d'amortissement ne pouvant pas excéder 25 ans. Donc en gros, tu peux faire 27 ans, mais il faut que en gros ton amortissement il soit sur 25 ans et tu as le droit de rajouter 2 ans de report. Donc si je me trompe, tu me le dis, mais moi c'est comme ça que je le comprends. Ça bien sûr, c'est dans la théorie, dans la pratique, les banques elles te prêtent sur 25 ans pour ta résidence principale et elles vont te prêter sur 20 ans pour tes investissements immobiliers. Bon, personnellement, j'arrive à faire du 22 ans, donc du 20 ans plus 2 ans de report, encore sur mes investissements. Mais pareil, là, ça dépend vraiment de la banque à qui tu as affaire. Donc ça, c'était l'article 1. L'article 2 nous annonce que les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent déroger aux règles mentionnées à l'article 1 pour une marge de flexibilité pouvant aller jusqu'à 20%. Donc en gros, sur tous les dossiers, ça je te l'avais annoncé dans un précédent podcast, tu as 100 dossiers, tu en as 20 qui ont le droit de déroger à cette règle de 35%. Donc je reprends, aller jusqu'à 20% de la production de nouveaux crédits immobiliers à chaque trimestre civil. Au moins 80% de la flexibilité maximale sera réservée aux acquéreurs de leur résidence principale avec au moins 30% de flexibilité maximale réservée aux primo-accédants. Les 20% restants de flexibilité maximale, soit 4% de la durée totale. Donc, la dernière fois sur le podcast, je m'étais trompé, j'avais calculé 1,6%. Donc quand je te disais sur 1000 personnes, tu n'as que 16 qui peuvent investir sur l'investissement immobilier au-delà de 35%. Finalement, on est à 40 personnes sur 1000. Voilà. Au moins la correction, elle a été faite. Donc, soit 4% de la production trimestrielle sont libres d'utilisation. Voilà, donc en gros, si tu as 100 investisseurs qui viennent déposer des dossiers avec 35% d'endettement supérieur, tu en as 4 qui auront le droit de passer, de déroger à ces règles. Mais bon, ne te fais pas d'illusions. Généralement, ce sont les portefeuilles beaucoup plus gros ou vraiment, ce sont généralement les gens qui s'y connaissent un peu plus. Et pour finir, cette dérogation devra pouvoir être justifiée. Donc pour revenir sur les primo-accédants, je t'ai dit qu'il y en avait 30% qui sont réservés. Donc sur les 20%, tu en as à l'intérieur un tiers où c'est réservé pour les primo-accédants. Mais j'ai une petite astuce à te donner. Personnellement, j'ai réussi à être officiellement primo-accédant. Donc primo-accédant, c'est quoi? Tu n'as pas été propriétaire de ta résidence principale durant les 2 dernières années. Moi, en étant militaire, bien sûr, je n'étais pas propriétaire vu que je vivais en caserne. Donc, j'ai pu être primo-accédant. Ce qui m'a permis aussi d'avoir un prêt à taux zéro de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et pour ça, il faut ne pas forcément payer d'impôts. Alors, je payais des impôts avant de faire de l'immobilier. Et avec tous les biens immobiliers que j'avais et tous les travaux que je faisais, je ne payais plus d'impôts. Ce qui faisait que officiellement, je gagnais plus que les officiers qui se trouvaient dans mon régiment, mais en plus de ça, j'avais accès au prêt à taux zéro. Ce qui fait que j'ai levé vraiment des dizaines de milliers d'euros à taux zéro, et là, la banque, elle te prend ça comme un apport. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau, c'était la petite astuce du jour. Bien, et pour finir l'article, du coup, la présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2022, donc c'est déjà passé depuis le 1er janvier, et ça a été fait le 29 septembre 2021. Bien, maintenant, rentrons dans le cœur du sujet, qui va pouvoir se faire financer aujourd'hui. Donc, déjà, prenons le problème à l'envers. Mets-toi à la place du banquier. Le banquier va se poser certaines questions, il va falloir que tu puisses toi y répondre avant d'aller au rendez-vous. La première question qui va se poser, c'est le saut de charge. Si j'accorde un prêt à ce client, ses charges mensuelles vont-elles augmenter? Si oui, de quel montant? Donc si tu as en achetant un bien, bien sûr tu auras des frais en plus, tu risques d'avoir eau, gaz, électricité, les taxes foncières. Là le banquier, son but c'est de mesurer ce saut de charge, à quel point il va t'impacter. Ensuite l'épargne. Si le bien de mon client ne se loue pas tout de suite, est-il en capacité d'assurer les mensualités? Alors les gens qui disent oui, moi je vais acheter de toute façon sans épargne, je fais un report et tout ça, c'est bien beau, mais si ça se loue pas tout de suite, que tu as un problème, il vaut mieux en avoir. Ensuite, investissement hors secteur d'habitation. Si j'accompagne ce client dans son projet, comment va-t-il assurer la gestion? Donc si vous achetez un bien qui se trouve loin de chez vous, c'est simple. Vous dites soit que vous avez de la famille sur place, prévenez-le là-dessus, ou alors vous mettez en gestion en agence que vous avez des partenaires. Voilà. Et pour finir, la contrepartie de la banque, quelle rentabilité la banque va-t-elle en tirer de ce client? Et oui, qu'est-ce que le client va pouvoir m'apporter? C'est l'un des premiers sujets qui va interpeller le banquier. Si tu veux que ton conseiller puisse défendre ton dossier, il faut qu'il puisse dire « Regarde, avec ce client, on va gagner ça, ça, ça ». Donc ces questions, tu dois te les poser avant d'aller voir ta banque. Ensuite, quelle banque choisir? Alors, il n'y a pas vraiment de super banque d'investisseurs parce que sinon, évidemment, tous les investisseurs iraient dans la même banque. Tout ce que je peux te dire, c'est que si tu es fonctionnaire ou assimilé fonctionnaire, je te conseille déjà la Banque Populaire parce que tu auras accès à la CASDEN. La CASDEN, c'est quoi? C'est juste, tu mets de l'argent chez eux et ça te permet d'avoir des taux vraiment très bas. Avant, je le faisais, quand j'étais du coup militaire, mais ce qui est bien déjà, c'est que même si tu n'es plus fonctionnaire, CASDEN un jour, CASDEN toujours, tu as toujours accès à ces taux. Mais attention, ce sont que pour les prêts en nom propre. Si tu passes pour des prêts en société, tu n'y as plus accès. Mais si tu commences à faire ça, si tu fais un prêt du coup pour ta résidence principale, n'hésite pas à aller voir la Banque Populaire en étant fonctionnaire. Au final, aucune autre banque ne pourra te battre au niveau des taux. Et comme j'ai dit dans un précédent podcast, je fais une petite parenthèse. N'oublie pas que si tu es fonctionnaire et que tu fais une société, tu as le droit, mais il faut qu'officiellement tu ne travailles pas plus de 30% de ton temps comparé à ton job. Et donc pour les fonctionnaires, c'est simple, vous allez voir votre supérieur hiérarchique. Et si vous êtes militaire, vous demandez à votre chef de corps à ce qu'il vous signe un papier. Ensuite, on a aussi le crédit mutuel. Alors moi, je les apprécie parce qu'ils ont la décision en agence. À partir du moment où ils ne te font pas une caution mais comme garantie, mais qu'ils décident de te faire une hypothèque, l'hypothèque parfois c'est un peu plus cher, mais ça te permet à ce que la banque choisisse directement si c'est oui ou si c'est non. Et quand c'est le directeur qui te dit « Ok, ben c'est moi qui choisis », c'est bien parce que si lui te dit oui, tu sais que c'est oui. Pour moi, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je sais parfois directement si le crédit je l'ai ou pas avant même de signer le compromis. Ensuite, je ne vais pas faire toutes les banques, mais bon, on va continuer un peu. Le Crédit Agricole, je t'avoue que j'ai plein de mauvais retours un peu sur ceux qui font les crédits, des documents perdus, ce genre de choses. Donc moi, je t'avoue que j'ai quitté le Crédit Agricole. Et leur politique, il faut que tu saches que ce n'est pas, c'est de ne pas avoir de clients qui investissent en dehors de leur région. Donc imaginons, tu es sur l'île, tu veux investir à Avignon, dans le sud, ben, du coup, là, la banque te dira, ah non, on n'est pas dans la même région, on ne peut pas vous suivre. Voilà. Donc à savoir, il ne faut pas hésiter à être multibanque. Ensuite, il y a la HSBC pour terminer. Donc attention, les frais sont élevés. Mais si tu vis à l'étranger ou que tu voyages beaucoup, c'est la banque idéale pour toi, ils sont leaders sur le marché mondial. Donc même en société, peu importe, ils comprendront que tu voyages et que tu investisses un peu partout. Mais attention, le plus important, ce n'est pas la banque, mais plutôt le conseiller. Tu peux tomber sur un conseiller complètement différent dans la même banque. Il y en a un qui te dira « c'est bon, je vous accorde le prêt » et l'autre qui ne va pas te l'accorder. Donc le plus important, c'est vraiment d'avoir le bon interlocuteur en face de toi. Je te conseille d'ailleurs pour un investissement immobilier de demander le directeur ou le conseiller qui s'occupe des patrimoines immobiliers. Mais si toutes ces banques du coup ne te financent pas, ne t'inquiète pas, j'ai un petit plan B pour toi, ce sont les banques étrangères. Donc pas les banques à l'étranger, mais bien les banques étrangères qui se trouvent en France. Et plus précisément, les banques portugaises implantées en France. Et oui, la HSCF n'agit pas sur les banques dans des pays étrangers. Alors, il y a une bonne dizaine de banques portugaises en France, mais moi je te conseille du coup la CGD, c'est la Garcia General de Depósitos. Il faut savoir que le SMIC au Portugal est de 740 euros. Donc comparé à un SMIC français, si tu gagnes deux fois plus, automatiquement, ben voilà pourquoi les banques portugaises sont quand même contentes d'avoir un petit français chez eux. Bon, bien sûr, là je te parle pas des banques portugaises qui se trouvent du coup à Paris. Bon, là ils ont l'habitude d'avoir d'importants clients, mais si tu trouves une petite banque portugaise vraiment en campagne ou enfin ils sont souvent dans des villes moyennes, eh bien ça peut être bénéfique parce que déjà rien qu'au SMIC tu gagneras déjà deux fois plus que les clients portugais de chez eux. Bon, là c'est une intuition, je ne suis pas dans les petits papiers de leur banque. Sache que tu peux te faire financer beaucoup plus facilement qu'en France, mais les taux d'intérêt sont plus élevés. Donc ça, c'est vraiment si tu ne trouves plus de banque en France qui te prête, tu vas avoir une banque portugaise, tu demandes le financement. Et si le projet vaut vraiment le coup et que tu es dos au mur, que tu n'as pas le choix, va voir ces banques, ça peut être un plan B assez intéressant pour te faire financer. Donc je te répète, chez moi, il faut aller voir la Garcia General de Depósitos et la CGD. Donc il y en a plein d'autres, il y en a une dizaine différentes. Mais bon, tu feras tes propres recherches, j'ai confiance, tu vas trouver. Ensuite, il faut que tu saches que la banque te note. Donc, suivant les banques, c'est différent. Ils peuvent te noter, donc ça peut être un chiffre de 1 à 10, ça peut être des couleurs. Je sais qu'au Crédit Agricole, ce sont des couleurs qui vont de rouge à vert, en passant par jaune. D'autres, c'est critique, mauvais, moyen, bon, excellent. Donc, je vais te donner déjà les critères sur lesquels elle te note, ça peut être utile. Pour commencer, elle te note sur ton endettement. Évidemment, 35%, tu sais que là, tu vas tout de suite passer en critique. Avant, c'était 40%, maintenant, on passe à 35%. Ensuite, tu as ton reste à vivre. Ton reste à vivre, si tu es une personne seule, il faut qu'il soit au-dessus de 30 000 euros. Bon, au fur et à mesure, ça va augmenter, étant donné qu'on a une inflation. Mais à l'heure actuelle, c'est 30 000 euros par part. Mais si vous êtes en couple, c'est 20 000 euros. Ensuite, il y a l'apport que tu comptes mettre dans ton bien immobilier. Si c'est 30%, je te dis tout de suite, tu passes tout de suite en excellent. Ensuite, évidemment, si tu descends jusqu'à aucun, ça devient critique. Mais ce n'est toujours pas impossible de faire des financements à 110%. Même si je ne le conseille pas forcément, ça dépend vraiment de la situation. Mais ça, on pourra en reparler dans un prochain podcast. Ensuite, l'âge. L'âge que tu as, donc là, tu ne peux rien y faire. Mais sache que si tu as moins de 25 ans, automatiquement, tu es excellent. Ensuite, ta profession. Si tu es un fonctionnaire, félicitations, tu es excellent. Sinon, il faut être un cadre sup ou un chef d'entreprise. En sixième, on a la pérennité des revenus. Donc là, si peu importe le revenu, si ça fait plus de 3 ans que tu l'as, tu pourrais être financé. Le CDI a de moins en moins de valeur. Donc à partir de là, il faut savoir que même le CDD, pour eux, c'est la même chose. Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières qui font des CDD à rallonge, même s'ils n'ont pas vraiment le droit. Ça fait des années qu'ils font ça. Et là, ben, ils vont pas forcément faire attention à ça, ils vont te financer. Après, pareil, un intermittent du spectacle, la grande majorité, ils ont du mal à se faire financer, mais tu vas dans une banque comme Avignon, ben, tu es intermittent, il y en a beaucoup, donc c'est très facile de se faire financer chez eux, à partir du moment où les revenus sont réguliers. Mais comme tu vois, ça dépend de la région et des banques. Donc il n'y a pas de règles immuables, ça dépend vraiment de là où tu te trouves. Ensuite, en septième, on a l'historique bancaire. Donc là, c'est simple, pas de négatif, ne pas être à découvert, ne même pas découvert autorisé. Même si on te dit que c'est un découvert autorisé, ne le fais pas. Et pour finir, l'effort d'épargne mensuel. Et là, par contre, c'est pas combien est-ce que tu mets de côté, mais combien en pourcentage. Donc voilà, fais attention à ces notations, je te les répète, ils font attention à l'endettement, le reste à vivre, l'apport, l'âge, la profession, la pérennité des revenus, l'historique bancaire, donc pas d'incident ni de découvert, et pour finir, l'effort d'épargne mensuel. Bien, on va parler d'un sujet qui va sûrement te plaire, c'est quel document, moi, personnellement, j'utilise. Donc pour commencer, quelque chose que je pense que je ne l'ai pas vu dans les formations, en tout cas pas que je sache, mais j'utilise, moi, personnellement, un CV d'historique d'investissement. Donc peut-être que je te mettrai l'historique, mon CV sur Instagram. Si je ne le fais pas, n'hésite pas à m'envoyer des messages, hein, je te l'enverrai. Donc l'historique, comment ça se déroule, c'est simple. Tu fais comme un CV pour une embauche, sauf que là, c'est pour la banque. Donc tu le fais évidemment à partir du moment où tu as au moins acheté deux biens immobiliers et d'investissement, bien sûr. Dans l'entête, tu commences par mettre ton nom, ton prénom, ton adresse, ton mail, ton numéro de téléphone. Ok, donc très simple, ton contact. Tu mets ta photo, ou tu la mets pas si c'est pas à ton avantage, mais ça c'est à toi de juger. Donc bref, ta photo, tes contacts, et en dessous, tu mets historique d'investissement. Et dans l'historique d'investissement, tu mets donc ce que tu as acheté, donc l'année, le mois et l'année à laquelle tu l'as acheté. Si c'est en travaux, tu mets entre parenthèses que c'est en travaux. Tu mets par exemple, ok, c'est un immeuble, il y a tant d'appartements, plus tant de places de parking. Quelque chose vraiment de très court qui puisse se lire vraiment en 5 minutes. Tu mets le prix d'achat sur le côté avec les loyers que tu en tires, si tu en tires des loyers. Et à tout ça, tu rajoutes aussi les formations que tu as suivies. Alors, aussi bien les séminaires immobiliers et tout ça que l'on peut suivre sur internet, que si tu as des diplômes professionnels du style agent immobilier et tout ça, tu les rajoutes. Une fois que tu as fait ton historique année par année, tout en bas, tu rajoutes des informations complémentaires. Donc moi, personnellement, dans les informations complémentaires, c'est tout ce qui peut m'aider dans les expériences que j'ai eues, tous les partenaires que j'ai. Tu peux rajouter les avocats, les comptables, tous les gens avec qui tu as l'habitude de travailler ou de faire travailler. Et tous les avantages concurrentiels que tu peux avoir avec les formations que tu as suivies. Voilà, alors ça c'est un CV que tu mets généralement, que tu envoies aux banques qui ne t'ont pas financé, que tu ne connais pas, ou alors quand tu changes de conseiller, c'est bien aussi de lui montrer ça. Ensuite, avant d'aller voir les banques, je te conseille de compartimenter tes fichiers en 6 dossiers différents. En premier, tu as le projet d'achat, l'état civil, le bien objet de la demande, la solvabilité du demandeur, les prêts en cours et les sociétés d'investisseurs, donc enfin les sociétés d'investissement si tu investis du coup en société. Donc pour commencer, dans le projet d'achat, c'est simple, c'est un résumé de ta situation et de ce que tu vas acheter. Donc là, personnellement, je t'avoue que je n'ai pas forcément te donner ce document parce que c'est vraiment un avantage concurrentiel que j'ai sur tous mes concurrents qui sont sur le marché. J'ai mis plus de 6 mois à le créer avec d'autres documents et il faut savoir que quand tu es SMICAR, ça peut vraiment beaucoup t'aider. Donc je le donne à mes potes quand ils ont envie d'investir, c'est moi qui leur montre leur dossier et avec ça, ben, s'ils n'ont pas leur crédit, c'est qu'on est sûr qu'ils ne l'auront pas. Ensuite, dans l'état civil, très simple, là, tu mets ta pièce d'identité. Bon, normalement, la banque, quand tu vas aller au rendez-vous, ils vont te la redemander. Du point de vue légal, ils sont obligés de la réimprimer eux-mêmes, donc physiquement. Mais tu la mets quand même dans le dossier, ça coûte rien. Ensuite, à côté de ça, tu rajoutes ton extrait de naissance et ton justificatif de domicile de moins de 3 mois. Voilà, ça, c'est en 2. En 3, le bien objet de la demande. Alors là, tu mets le bien, donc tu prends les photos du bien s'il faut. Là, c'est ton projet, donc les plans, les taxes foncières, le compromis, les baux. Enfin, si c'est déjà loué, tu mets les baux. Tu mets tout ce qui concerne le bâtiment. Mais l'année aussi, souvent la banque elle va te demander pour les assurances en quelle année est-ce qu'il a été construit, tu mets les mètres carrés, tu mets l'adresse, il faut que là il sache vraiment tout sur le bien. Une fois que tu as rempli ce dossier, en numéro 4, il te faut la solvabilité du demandeur. Donc là c'est tous les loyers que tu perçois, donc si tu en perçois déjà évidemment, donc tu fais même un petit tableau avec très simple, avec marqué l'adresse du bien et les locataires avec le prix des loyers. Et à côté de ça, tu rajoutes tes fiches de paie, tes fiches de revenus, tout ce que tu as qui atteste des revenus que tu as. Donc attention, si comme moi avant tu partais en mission et que c'était il y a plus de 6 mois, au lieu de donner tes 3 dernières fiches de paie, n'hésite pas à donner une année si ça va c'est bien pour toi. Donc si c'est bon pour toi, la banque fera une moyenne par rapport à tout ce que tu lui as donné. Et après, au-delà de tout ça, comme d'habitude, les 3 derniers relevés de tous tes comptes bancaires. En 5, les prêts en cours, donc les prêts IMO, les prêts auto, les prêts conso, enfin j'espère que tu n'en as pas, tout ce qui atteste que tu as des prêts, ça c'est obligatoire. Et pour finir, au niveau des sociétés d'investisseurs, tu mets les sociétés qui agissent dans l'investissement, tu fais un petit schéma en plus, et si tu veux, tu peux même rajouter, comme moi je l'ai fait sur mon dossier bancaire, tu fais juste des ronds, des carrés avec qui se trouve dans les sociétés. Et tu peux même aussi mettre leur rôle. Donc moi par exemple, dans la société, on a mis qu'il y en avait un, c'était le gestionnaire, l'autre, c'était l'analyste qui a analysé le bien financièrement, et le troisième investisseur, c'était l'arbitre qui départageait les décisions de l'analyste et du gestionnaire, ce qui permettait à l'entreprise d'avancer quoi qu'il arrive. Et après, tu rajoutes tous les documents qui concernent les sociétés, donc extricabis, les statuts, enfin bon, ça tu le sauras le moment voulu. Et quand tu présentes ton dossier bancaire, présente-le de la bonne façon. Inutile de parler des choses qui ne sont pas à ton avantage. Donc bien sûr, tu inclus tous les justificatifs qui te sont demandés, mais un exemple tout simple, si tu ne demandes pas la taxe foncière du bien que tu es en train d'acheter, ben c'est simple, tu ne l'avais pas. Comme ça, il ne te le comptera pas en charge. Tu le donnes, tu peux le mettre dans le justificatif, mais tu n'en parles pas. Pareil, le prêt auto, tu es obligé de mettre le prêt, mais si tu as des prêts à côté, n'en parle pas. Tu mets les justificatifs et c'est à eux d'aller voir quel justificatif tu leur as donné. Bien, maintenant, nous allons parler de quoi négocier, de toutes les options en fait que l'on a en banque dont on n'est pas forcément au courant. Donc, pour commencer, tu as différents types de prêts. Tu as le prêt amortissable, le prêt progressif, le prêt à taux variable, le prêt in fine et le prêt lombard. Ah, et le prêt gigogne aussi. Pour commencer, le prêt amortissable, c'est celui que la majorité du temps tu risques d'utiliser. C'est simple, c'est un prêt à taux fixe où au début tu as beaucoup d'intérêt et ensuite il diminue au fur et à mesure des années. Donc au fur et à mesure des années, tu rembourses de plus en plus du capital. À tout ça, tu peux le combiner avec un report de prêt. Donc c'est ce qu'on appelle un différé partiel ou un différé total. Le partiel, c'est simple, tu payes juste les intérêts d'emprunt, donc c'est en gros un quart du prix de ce que tu paierais normalement. Ou alors tu fais un différé total où là tu ne payes que l'assurance. Donc c'est un prêt qui va te coûter 20, 30 ou 40 euros par mois et c'est tout. Ce report de prêt, souvent tu ne peux pas faire du 36 mois si tu n'achètes pas un immeuble ou une maison. Donc si tu achètes juste un appartement, au lieu d'avoir les 36 mois qui sont parfois le Graal parce que ça te permet d'avoir de mettre beaucoup de cash de côté parce que tu loues l'appartement mais tu ne payes pas encore le crédit, je vais te donner deux solutions pour faire ce différé de 36 mois même si c'est juste un appartement. Donc c'est possible. Je te préviens, la première solution c'est que de la théorie, je l'ai appris pendant un séminaire. Et la deuxième solution par contre je l'ai apprise grâce à mon directeur d'agence. Donc première solution, donc théoriquement, une fois que tu fais ton prêt, tu demandes un report de prêt de 6 mois ou un an. Jusque là, tu me suis. Une fois que tu arrives vers la fin de ce report de prêt, un mois avant, tu appelles le service crédit. Donc là, c'est écrit normalement sur les papiers que tu as reçus du crédit. Tu dois avoir un numéro de téléphone. Donc là, c'est pour ça que je te dis c'est de la théorie, parce qu'apparemment, c'est là qu'on le trouve, mais je n'ai jamais vérifié. Tu appelles ce service crédit, ça ne passe pas par la banque, et tu leur demandes de continuer ton report de 24 mois. Et ils le font. Donc là, tu me dis, ah oui, mais si mon conseiller s'en rend compte... Ne t'inquiète pas, ils ont des centaines de personnes à gérer, ils sont pas là en train de regarder tes comptes au jour le jour. Ensuite, la deuxième solution, donc celle que moi j'ai déjà utilisée pour un studio un jour, tu achètes, tu demandes un report de prêt de 1 an, mais après avoir terminé les travaux. Donc je sais que certaines personnes font un report de prêt tant qu'ils n'ont pas terminé les travaux, et du coup, si tu débloques tout l'argent, ton prêt commence. Là, tu peux demander 1 an après avoir terminé le prêt. Donc c'est simple, tu fais les travaux, tu récupères du coup, tu payes les artisans grâce au prêt en le débloquant au fur et à mesure. Tu ne débloques pas les derniers, on va dire, 2000 euros pour ne pas déclencher le crédit. Une fois que tu as dépassé les 24 mois de report, donc celle-là, ça fait déjà 2 ans que tu es en report. Là, tu peux débloquer tranquillement l'argent qui te reste. Donc, soit tu fais une facture ou alors tu appelles ta banque directement et ton crédit débutera que 1 an plus tard. Et félicitations, tu as fait 36 mois de report sur un petit studio. Ensuite, pour le prêt progressif, alors là, je l'ai déjà demandé une fois en banque et souvent les banquiers ne connaissent pas ce type de prêt. Donc si tu ne connais pas, ne t'inquiète pas, c'est parce qu'il n'est pas très connu. Le prêt progressif, c'est simple, tu fais un prêt, au début, c'est beaucoup moins cher qu'un prêt amortissable classique. Donc imaginons que si tu avais fait un prêt classique, un prêt amortissable, tu aurais payé 580 euros par mois. Avec le prêt progressif, du coup, tu paierais dans la simulation de 530 euros au début, au lieu de 580, mais à la fin, ce sera plus cher, tu paieras 640 euros. Alors, c'est bien parce que au début, étant donné que tu n'as pas forcément de loyer, ton endettement aussi diminue. Donc, tu as moins d'endettement, tu encaisses des loyers, et puis en fait, tu fais augmenter tes loyers en même temps que tes mensualités. Alors comment ça se passe dans la pratique? Ton prêt va augmenter de 1% par année. Donc l'avantage aussi, c'est que tu peux avoir plus de pouvoir d'emprunt, étant donné que tu es moins endetté, ou alors tu peux décider de faire un crédit plus court. Mais attention, les intérêts, donc là dans mon exemple, les intérêts étaient pour un prêt amortissable de 39 200 euros, et si tu fais un prêt progressif, là ce sera de 40 800 euros. Bon, tu n'as que 1000 euros de différence, mais il faut que tu le saches. Ensuite, on a le prêt à taux variable. Bon, là, je passe vite. Quand les taux sont bas, CSM ne le fait pas. C'était juste un taux plus bas que le prêt amortissable. Où là, en gros, c'est quand les prêts sont très élevés. On te dit, bon, écoute, tu as plus de chances que ça baisse que ça monte. Donc, fais un prêt à taux variable et ça diminuera. Bon, là, tu as plus de chances que ça augmente plus que ça baisse. Donc, c'est simple. Ça, on ne le fait plus. Ensuite, le prêt in fine et le prêt lombard. Donc, en gros, c'est si tu as de l'argent, le prêt in fine, tu ne payes que les intérêts durant toute la durée du crédit. Donc ça, c'est très bien pour éviter d'être endetté parce qu'au final, tu ne payes que les intérêts. Et à la fin de ce prêt, tu dois tout rembourser d'un coup. Donc comment font le banquier pour être sûr d'être payé? Ils prennent l'argent que tu as, genre tu achètes un immeuble à 200 000 euros, ils vont te prendre dans les, je sais pas, dans les 150 000 euros. Tu vas être obligé de bloquer cet argent, donc au moins tu gagnes cet argent, tu gardes cet argent, pardon. Et les loyers que tu gagnes, tu seras obligé de les mettre en grande partie sur ce compte-là. Et à la fin du prêt, ou alors si tu veux rembourser par anticipation, c'est cet argent qui sera utilisé pour rembourser le prêt au final. Mais d'ici là, tu as le temps d'encaisser les loyers pendant 20 ans quand même. Et le prêt lombard, c'est simple, on prend comme caution une œuvre d'art, des montres de luxe, quelque chose qui t'appartient. Et pour finir, le prêt gigogne. Alors le prêt gigogne, c'est comme si tu faisais plusieurs prêts pour un seul bien. Donc, comme je te l'ai dit personnellement, j'ai réussi à faire un prêt à taux zéro en étant primo-accédant pour ma résidence principale alors que j'avais d'autres biens. C'est ce qu'on appelle un prêt gigogne parce que j'ai dû faire 3 prêts pour acheter ma résidence principale. Un premier prêt qui était bas, un deuxième qui était... Non, j'en ai même fait 4 maintenant que j'y pense. Un autre prêt qui diminue avec un deuxième par-dessus à prêt à taux zéro. Et un dernier qui augmente, mais généralement c'est dans les 5 dernières années et tu as déjà remboursé ton bien à ce moment-là. Ensuite, pour que tu le saches, qu'est-ce qui peut se négocier à la banque? Donc, nous avons le taux d'intérêt, c'est la chose que l'on négocie généralement. Tu as le taux d'assurance. Donc là, par exemple, moi, mes assurances, je les ai renégociées récemment. Et je vais te donner un exemple tout simple. Sur l'assurance habitation, je suis passé de 18 euros par mois à 3 euros par mois. Donc, il y a vraiment une différence entre les assurances qui sont en banque et les assurances chez les assureurs de tous les jours. Et malgré la baisse du coût de 15 euros, j'ai les mêmes garanties. Ensuite, tu as les frais de dossier qui peuvent être directement à zéro. Tu as les types de garanties, donc tu en as 3 sortes. La caution, l'hypothèque et l'IPPD. Donc l'IPPD, c'est l'inscription au prêteur de deniers. C'est comme l'hypothèque, sauf que ça te coûtera moins cher. Et sinon, tu peux même ne pas faire de garantie. Donc ça, c'est beaucoup plus rare. Mais tu peux même dire, écoutez, moi, j'ai que des biens remboursés. Je ne veux aucune garantie. Vous me faites le prêt et puis c'est tout. Mais bon, le jour où t'en seras là, hein, on en reparlera. Ensuite, nous avons les indemnités de remboursement anticipé, ça ce sont les IRA, donc tu peux soit les diminuer, donc de base elles sont à 3%, tu peux les diminuer à par exemple 1%, 0,75% ou carrément à 0. Ensuite, tu as le report de mensualité activable, tu as la double mensualité activable, ça je te conseille de la prendre, c'est-à-dire que par exemple à la fin de l'année, tu te dis bon, mais là j'ai fait mon chiffre et j'ai envie de payer deux fois le crédit. Imagine que tu payes 600 euros par mois, tu dis écoutez, là j'aimerais payer 1200 euros et ensuite ils te demanderont qu'est-ce que tu veux faire et généralement c'est soit du coup tu diminues la durée ou tu diminues ce que tu payes à la fin du mois. Tu as la clause de modulation des échéances, tu as le différé de prêt donc total ou partiel, ça je t'en ai déjà parlé. Tu as le transfert de prêt, donc ça c'est vraiment le Saint Graal, mais déjà en fait là c'est simple, tu as un prêt, tu comptes vendre ton bien, tu gardes ce prêt et tu utilises l'argent pour acheter un autre bien. Voilà, ça c'est le Saint Graal parce que au final, du coup, tous les intérêts d'emprunt que tu as déjà payés, tu évites de les repayer en refaisant un autre prêt. Et ensuite, nous allons parler de comment se comporter pendant tes rendez-vous et sur tes comptes bancaires. Donc, pour commencer, comment est-ce que tu te comportes au niveau de tes comptes bancaires? Bon, tu le sais sûrement déjà, mais déjà, premièrement, pas de négatif sur tes comptes, c'est interdit. Tes comptes ne doivent jamais être dans le rouge. Il faut montrer aussi que tu as de l'épargne régulière. Donc, il vaut mieux le même montant chaque mois. Alors là, attention, certains banquiers ou certains courtiers ne sont pas forcément d'accord avec ça. Mais moi, je te conseille de faire tous les mois exactement le même virement sur tes épargnes. Donc, un exemple tout simple, tu peux mettre tous les mois 700 euros par mois. Mais parfois, il y a certains mois, tu ne peux pas, il faut que tu fasses l'inverse. Imaginons que tu mets 700 euros par mois, mais il faut que tu récupères 400 euros. Je te conseille de mettre que 500 euros par mois tous les mois et tous les 6 mois ou un an si tes comptes dépassent une certaine somme. Donc imaginons que tu dépenses en moyenne 1200 euros par mois en frais fixes. Si tu arrives à 3000 euros par mois, là du coup tu vas refaire un virement directement de 1000 euros sur tes épargnes. J'ai déjà donné ce conseil à l'un de mes anciens collègues qui lui mettait par exemple toute sa solde, enfin pas par exemple, mais il mettait vraiment la majorité de sa solde parce qu'il n'avait pratiquement pas de frais en épargne. Donc toute sa solde en épargne et ensuite à la fin du mois il était obligé de refaire le virement inverse. Et il avait un peu de mal à trouver des crédits. Je lui ai dit ok, là pendant les 3 prochains mois tu mets la moitié de ce que tu as l'habitude de mettre. Donc tu calcules, tu fais ton budget et tu mets vraiment ce que tu peux mettre avec un surplus que tu te gardes toi de côté sur tes comptes. Et une fois qu'il a fait ça, tous ses comptes du coup d'épargne étaient en positif et il n'y avait pas de virement de l'autre sens. Ce qui fait que c'est beaucoup plus lisible pour un banquier et du coup c'est beaucoup plus simple d'avoir un prêt. Là, comme je te l'ai dit, tous les banquiers ne sont pas d'accord avec ça, mais moi c'est ce que je conseille à mes amis et mes collègues. Donc en gros, il s'agit tout simplement de se payer en premier. N'oublie pas que chaque épargne a un objectif. Donc moi personnellement, j'ai par exemple une épargne qui sert à payer mes impôts à la fin de l'année, une autre épargne qui me sert on va dire comme sécurité par rapport à l'immobilier. Si j'ai un problème sur mes bâtiments, chaque bâtiment a sa propre épargne. Donc si j'ai des chauffe-eau qui pètent en même temps, si j'ai un toit qui s'écroule, qu'il faut que j'avance l'argent avant de faire passer l'assurance, le mieux c'est d'agir très vite, surtout si ça concerne de l'eau qui rentre dans tes bâtiments. Eh bien, le fait d'avoir ce coussin de sécurité, je te le conseille. Donc, au début, on conseille 12 mois de loyer, mais au bout d'un moment, tu verras que 12 mois de loyer, si tu arrives à 5000 euros sur les comptes, ça ne sert strictement à rien. Descends de moitié, tu mets 50 000 balles et tout le reste, tu le mets en bourse. Donc, des épargnes pour ton coussin de sécurité, une épargne qui te sert à payer tes impôts, une autre qui peut te servir pour tes loisirs, donc pour te faire plaisir. Et ensuite, tout le reste, moi personnellement, je mets tout en bourse. Ensuite, au niveau de ton banquier, ne parle pas de tes crypto-monnaies. Alors là, même s'il est d'accord ou pas avec ça, ce n'est pas quelque chose que tu dois afficher, même dans tes justificatifs, c'est simple, tu n'en parles pas. Ça ne doit rien interférer par rapport à ce que toi tu fais. À côté, ça peut même être considéré dans certains cas comme un peu du casino pour certains, comme le poker, tout ça, les jeux à gratter, tous les sites en ligne comme ça, tu évites de les faire afficher sur tes comptes. C'est vraiment rédhibitoire au niveau de la personne qui va vouloir te faire un prêt, tu es considéré comme un joueur. Alors bien sûr, tu peux cacher un de tes comptes en ligne du style N26 et tu utilises que ce compte par exemple pour payer tes choses en ligne. Je connais même une personne qui n'a pas eu son prêt. Tout ça pourquoi? Parce que en fait elle prenait trop souvent le McDo. Elle allait chaque semaine au McDo. Du coup son dossier en fait c'était une chance sur deux de l'avoir. Et la banque lui a dit non, tout simplement. Elle dit ok bon, qu'est-ce qui peut nous causer problème? Ils ont vu que cette personne du coup mangeait trop au McDonald's. Elle allait avoir des problèmes de santé. Elle allait avoir plus de chances d'avoir des problèmes de santé. L'assurance, il allait falloir payer pour cette personne plus tard. Donc ils ont dit tout simplement non, on ne finance pas cette personne. Voilà, ça laisse à réfléchir. Donc si tu vas au McDo, les fast-food, les trucs comme ça, je te conseille de payer en liquide. Il faut que tu saches que la majorité des personnes viennent au rendez-vous bancaire comme des touristes. Si tu as un dossier déjà toi bien préparé, tu seras mieux que la majorité des clients. Mais si en plus tu t'occupes plusieurs mois à l'avance d'avoir des comptes clean, là tu passeras vraiment dans le haut du panier. Pour la majorité des personnes, il leur faut 2-3 rendez-vous pour rassembler tous les documents, monter le dossier bancaire. Alors que si tu prépares tout à l'avance, en un seul rendez-vous, tu peux obtenir ton crédit. Aujourd'hui, moi perso, je fais des rendez-vous de 30 minutes par téléphone et j'arrive à avoir mes prêts. Mais bon, là, la personne que tu entends, elle a 10 ans d'expérience derrière elle et j'ai déjà eu beaucoup de galères face aux banques. Et au début, oui, c'était pas du tout comme ça. Donc tu vas voir les banques que tu ne connais pas, tu prends rendez-vous avec elles, tu leur donnes ton CV, donc je te conseille de récupérer l'email de la personne avec qui tu vas prendre rendez-vous et tu envoies ton CV bancaire 24 heures à l'avance, plus le projet d'achat, donc le résumé de tout ça. Donc tu verras, ton banquier va l'imprimer et ensuite quand il sera au rendez-vous, donc il va noter parfois des choses dessus et là le rendez-vous va être beaucoup plus fluide et va avancer beaucoup plus vite. Et point particulier, si le rendez-vous ne te va pas, tu sais simple, tu te lèves et tu te barres. Ça m'arrivait pas mal de fois, moi, de me lever en plein milieu du rendez-vous. Je dis, écoutez, ça ne va pas le faire, je ne vais jamais investir avec vous, je m'en vais. Ça m'arrivait la première fois pour mon deuxième bien immobilier où le banquier m'avait annoncé que eux, le prêt, c'était maximum 15 ans et que c'était impossible pour moi d'être financé. Donc t'imagines que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Et là, c'était le banquier cette fois-ci. Heureusement que j'étais un minimum formé avant et que je savais que je pouvais le faire parce que le banquier m'avait annoncé, écoutez, ce que vous voulez faire, c'est impossible. Personne ne peut le faire. Dans ce cas-là, vous pourriez acheter en illimité suivant le calcul que vous me faites. Donc là, je lui faisais le calcul du différentiel pour ceux qui connaissent. Et je lui ai répondu, ben oui, oui, c'est exactement ce que je compte faire et c'est ce que je vais faire. Je me suis levé et je suis parti, je lui ai serré la main, je lui ai dit on ne veut jamais faire affaire et je ne suis jamais revenu dans cette banque. Et aujourd'hui je pense qu'il regretterait s'il voyait mes comptes. Ensuite, ça m'est arrivé une autre fois où pareil je présente un super projet rentable et là la personne venait d'arriver dans la banque, elle venait tout juste d'être mutée, le directeur était en vacances, donc il n'avait encore jamais rencontré cette fameuse conseillère.
Et là, la conseillère, une fois que j'ai donné le projet, elle a même pas regardé le projet. Tout ce qu'elle a fait, c'est essayer de me vendre un produit de défiscalisation, donc en loi Pinel. Le truc n'était pas du tout adapté pour moi. Je lui ai demandé tout simplement, elle, est-ce qu'elle avait des appartements en loi Pinel? Elle m'a répondu non. Je lui ai dit, écoutez, je sais que vous gagnez beaucoup de commissions là-dessus. En plus, ce n'est pas du tout adapté à ma situation parce que je ne paye pas d'impôts. Je lui ai très clairement dit qu'elle était complètement incompétente dans son boulot. Et je suis parti et pareil, je ne suis plus jamais revenu dans cette banque. Alors que j'avais déjà rencontré des autres conseillers qui étaient très bien, mais là, je me suis dit non plus jamais je retombe sur cette personne, je m'en vais. Ça m'est arrivé d'autres fois, mais bon, si tu veux avoir d'autres anecdotes, je te les raconterai dans un autre podcast parce que là, ça commence à être long et il faut que j'écourte. Donc, en bref, n'hésite pas à négocier avec ta banque certains points, ne négocie pas forcément tout, essaie de faire en sorte à ce que ce soit fluide, je te dirai moi ce que je négocie ou pas à la fin de ce podcast. Si j'ai oublié, ça peut arriver, bah, tu m'envoies un message. Et n'oublie pas à la fin de ton rendez-vous, si tu n'as pas de prêt, demande pourquoi ton conseiller et note toutes les infos qu'il va te donner. Tu lui poses une question toute simple, ok donc là vous ne m'avez pas financé, qu'est-ce qu'il aurait fait que vous m'auriez financé? Et là tu notes tout ce qu'ils te disent et tu essayes d'améliorer ces points-là. Bien, maintenant nous allons parler du dernier chapitre sur comment est-ce que j'ai réussi à me faire financer au chômage. Mais avant, j'ai une question qui revient souvent, c'est je suis déjà propriétaire de ma résidence principale ou alors je suis déjà endetté à 35%, que faire? Je vais te donner quelques différentes pistes qui pourront peut-être t'aider. Donc pour commencer, tu peux toi acheter ton premier bien en disant que c'est pour ta résidence principale, ce qui fait que déjà alors tu as accès à beaucoup plus de choses au niveau du crédit. Les banques seront moins frileuses à te prêter et ensuite, une fois que tu as acheté ta maison ou ton immeuble, tu décides de le louer. On ne peut pas t'empêcher de louer ton bien. Bon, c'est vraiment quelque chose de très connu. Ensuite, nous avons acheté un immeuble et dire que tu vas vivre dans l'un des appartements. Donc, tu dis à la banque de prendre en compte les futurs loyers que tu vas avoir ou les loyers déjà actuels qui se trouvent dans l'immeuble. Et tu dis, ok, moi, je vais vivre dans cet appartement. C'est même une stratégie que tu peux faire en réel, tu auras du coup vraiment ta résidence principale. Ensuite, pour baisser ton taux d'endettement, tu peux faire avec un prêt in fine, ça je t'ai déjà expliqué le fonctionnement, mais généralement tu as déjà de l'argent. Et si tu as déjà de l'argent, tu n'auras vraiment pas forcément ce problème, tu passeras en société. Et d'ailleurs, acheter en société, mais attention, les banques ont certaines préférences au niveau des sociétés. De mémoire, je crois qu'ils préfèrent les SCI que les SAS. Donc je donne cet exemple, je peux me tromper. Et au lieu d'acheter en société, sachant qu'un SCI, tu es obligé d'acheter à plusieurs, tu peux acheter du coup avec d'autres personnes qui sont soit moins endettées, soit qui ont plus d'argent que toi. Là, on regarde beaucoup moins la personne qui est endettée, on regarde beaucoup plus le projet. Donc personnellement, aujourd'hui, il est plus difficile pour moi de trouver un bien immobilier que de me faire financer. Comme je t'ai dit précédemment, avec un seul coup de téléphone de 30 minutes et un email envoyé, j'ai réussi à me faire financer un immeuble. Mais avant, voici comment. Donc pour commencer, lors de mes demandes de financement, je ne négocie pas grand-chose, j'essaie de rester au plus simple. Premier truc, le taux. Le taux, c'est ce que tout le monde négocie, moi je ne le négocie pas. Quand j'arrive dans la banque, je dis ok, je viens vous voir. Alors je le faisais au début, pour avoir vraiment des taux le plus bas possible et avoir une marge pour pouvoir vivre. Aujourd'hui, je n'en ai plus besoin, donc je ne négocie plus le taux. Je vais voir la banque, je leur dis écoutez, moi je viens chez vous, mais je ne négocie pas le taux, montrez-moi ce que vous faites. Une fois qu'ils m'ont fait la simulation, je leur demande d'enlever les IRA, donc les indemnités de remboursement anticipé, je les mets à 0%. Mais il y a une astuce pour les mettre à 0%. Parce que les banques, le problème qu'elles ont à le mettre à 0%, c'est que si tu fais un rachat de prêt et que tu t'en vas, du coup, ben, tu risques de ne pas être fidèle. Donc nous, on met une option là-dessus, c'est que les IRA, elles sont activables sous deux conditions. La première, c'est que on prend notre épargne et on rembourse directement le prêt. Deuxième solution, on a vendu le bien et du coup là on rembourse le crédit, ce qui est obligatoire. Mais si on fait un rachat de prêt, les IRA passent à 3% ou les 6 derniers mois. Ce qui indique que nous, on ne compte pas partir de chez eux et du coup ils sont contents. Donc les IRA, on peut les rembourser seulement si on rembourse le prêt ou qu'on utilise notre épargne. Si on va ailleurs, c'est simple, c'est comme une punition, on doit payer un pourcentage. Ensuite, le report de prêt, on fait un minimum de 24 mois et les prêts on fait sur 20 ans. Donc ça dépend, des fois on fait les prêts sur 18 ans plus 2 ans de report, ou alors on fait les prêts sur 20 ans plus 2 ans de report. On fait les reports partiels, donc actuellement on fait report partiel parce que ça nous arrange, mais là on va partir sur une autre stratégie, donc je pourrais t'en parler sur d'autres podcasts, où on vise une courte durée. Donc c'est quelque chose que moi je ne vais pas gérer, donc ce sera une nouvelle société, donc ce n'est pas encore fait, mais en gros on va acheter des biens, on fait un report de prêt mais total, et ensuite on revend une partie des biens pour rembourser les prêts et faire du cash. Mais bon, là c'est beaucoup plus complexe, il faudrait que je te parle vraiment ça dans un autre podcast à part, mais en gros on a la possibilité de ramener 50 000 euros en 17 jours avec une certaine stratégie. Mais bon, si tu veux que je t'en parle, n'hésite pas à me contacter. Et la dernière chose que l'on ne négocie pas, ce sont les assurances. Les assurances, je les prends tout chez le banquier, en société. Par contre, en nom propre, au bout d'un moment, j'ai tout renégocié et ça baisse mon taux d'endettement. Donc voilà, petite astuce pour baisser ton taux d'endettement. Comme je te l'ai dit, il n'y a rien que sur un crédit, je paye de 18 euros, je suis passé à 3 euros par mois. Mais au-delà de tout ça, tu te dis, ok, bon, il ne négocie pas grand-chose, mais c'est pas grâce à ça qu'il a réussi à se faire financer au chômage. Non, c'est vrai. La première chose que tu dois savoir, c'est que déjà, je pouvais vivre de mes investissements immobiliers en étant au chômage. Mais ce n'était pas forcément mirobolant. La deuxième chose, c'est que tout seul, je ne pouvais plus investir. Donc, j'ai décidé de m'associer. L'association, je voulais déjà la faire depuis plusieurs années, même quand j'étais en train de travailler, du coup, quand j'étais à l'armée. Mais la seule personne avec qui je voulais m'associer, c'était un intermittent du spectacle, qui lui, du coup, n'était pas du tout finançable, en tout cas tout seul. Impossible que les banques arrivent à le financer. Il avait déjà eu une dizaine de refus au niveau des banques. Et du coup, je me suis dit, là, il faut qu'on trouve une solution. Et on l'a trouvé. La solution était assez simple, il avait déjà sa résidence principale qui payait depuis 10 ans. Donc je lui ai dit tout simplement de racheter sa résidence principale avec une SCI, ce qui lui a ramené plus de 90 000 euros sur les comptes. Une fois qu'il a ramené tout cet argent sur les comptes, on s'est associé et du coup, j'ai pu, moi en tant que chômeur et lui en tant que chômeur professionnel, vu qu'il était intermittent du spectacle, il touche aussi le chômage, on a pu du coup investir ensemble et là, on a trouvé un partenaire financier qui nous suit sur tous nos projets. Donc voilà comment est-ce que tu fais pour pouvoir investir en étant au chômage. De mon côté, il y avait l'expérience du coup de déloyer. Le banquier voyait que ça marchait, du coup moi j'ai la moitié de la société. Donc on a un troisième associé, mais bon, j'en parle pas parce que lui il n'a pas forcément de patrimoine. Donc en conclusion, peu importe si tu as un petit salaire, si tu es salarié, une petite solde si tu es un soldat et une petite paye si tu es un paysan, à partir du moment où tu as des revenus, même si tu es qu'un intermittent du spectacle ou même un intérim, à partir du moment où tu as des revenus, tu peux déjà commencer à investir et l'effet de levier de la banque est là pour t'aider. Alors, les choses qui me plaisent le plus dans l'immobilier, c'est le fait d'investir avec l'argent que l'on emprunte en banque. Une fois que tu as montré un projet qui est valide, là, on te prête de l'argent et je trouve ça vraiment cool. Donc, je dis pas l'argent des autres parce que c'est quand même ton argent. Il faut quand même être responsable. Mais bon, j'espère que ce podcast a pu quand même un peu t'aider. Aujourd'hui, dis-toi que tu as de moins en moins de concurrence depuis la hausse des taux de la HSCF. Donc ça, je t'en ai déjà parlé dans un ancien podcast. Comme je t'ai dit aussi dans l'ancien podcast, du coup, on a des courtiers immobiliers qui annoncent que c'est impossible d'emprunter aujourd'hui, mais tout ça parce que eux, ils n'ont plus de marge, du coup, les banques ne vont plus les voir. Et les formations que tu fais dans l'immobilier aujourd'hui ne suffisent plus, il faut être au courant de l'actualité et c'est bien du coup d'écouter des podcasts parce que du coup, tu peux apprendre les nouvelles choses, les nouvelles tendances qui sont en train d'arriver. Donc, dis-toi que rien que ça, c'est un petit avantage concurrentiel que tu as. Si la banque t'empêche d'investir alors que tu n'es pas endetté, c'est à toi de trouver une solution. Je t'ai déjà donné quelques pistes entre la résidence principale et les sociétés. Après, attention, sur la forme juridique, tu peux avoir des difficultés à investir, mais le principal, c'est que tu trouves une solution. En société, même si ce n'est qu'à 1% avec un membre de ta famille que tu t'associes, il vaut mieux ça que d'être bloqué. Parfois, tu prends, par exemple, tes parents, ta sœur, ton frère, peu importe, tu leur donnes 1% de la société, et si rien que ça, ça permet de te débloquer, parce que vu que vous êtes solidaire sur une SCI là-dessus, mais la banque risque de te prêter, donc tu peux passer de 0 à 1 et le principal c'est de faire ça, de passer de 0 bien à 1. Actuellement, il faut savoir que on a un record de sociétés qui se font financer des projets. Donc tu vois que le marché a déjà réagi et s'est adapté. Et donc, comme je te l'ai dit, les banques actuellement regardent plus le projet en lui-même que la personne. Donc, n'hésite pas à rajouter des détails sur ton investissement, les photos, les plans, toutes les recherches que tu as pu faire au niveau du marché, les plans avant-après, etc. Après tout ça, si tu ne peux pas te faire financer, sache qu'il y a d'autres moyens. Tu as Internet, tu as la famille, donc les prêts qu'on appelle la love money. Mais avant d'en arriver là, tu devrais pouvoir trouver un financement. Bien, ce podcast est enfin terminé. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me contacter. Je te souhaite bon courage dans tes investissements. Ne lâche rien. Dis-toi qu'il y a toujours une solution. Je te dis à très vite dans un prochain podcast. Salut!
Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LocInvest.